La comtesse de Rudolfstadt, chapitre 19. Pour quiconque s'est attaché à la lecture des histoires de prisonniers, la simplicité de cette cachette, échappant toutefois à l'avis d'examen des gardiens intéressés à la découvrir, ne paraîtra point un fait miraculeux. Le petit secret de Consuelo ne fut pas découvert, et lorsqu'elle regarda ses trésors en rentrant de la promenade, elle les retrouva intacts. Son premier soin fut de placer son matelas devant la fenêtre dès que la nuit fut venue, d'allumer sa petite bougie et de se mettre à écrire. Nous la laisserons parler elle-même, car nous sommes possesseurs de ce manuscrit, qui est demeuré longtemps après sa mort dans les mains du chanoine. Nous le traduisons de l'italien. Journal de Consuelo, dite Porporina, prisonnière à Spandau, avril 1750. Le 2. Je n'ai jamais écrit que de la musique, et quoique je puisse parler facilement plusieurs langues, j'ignore si je saurais m'exprimer d'un style correct dans aucune. Il ne m'a jamais semblé que je dusse peindre ce qui occuperait mon cœur et ma vie dans une autre langue que celle de l'art divin que je professe. Des mots, des phrases, cela me paraissait si froid au prix de ce que je pouvais exprimer avec le chant. Je compterai les lettres, ou plutôt les billets que j'ai tracés à la hâte, et sans savoir comment, dans les 3 ou 4 circonstances les plus décisives de ma vie. C'est donc la première fois, depuis que j'existe, que je sens le besoin de retracer par des paroles ce que j'éprouve et ce qui m'arrive. C'est même un grand plaisir pour moi de l'essayer. Illustre et vénéré Porpora, aimable et cher Hyde, excellent et respectable chanoine, vous, mes seuls amis, et peut-être vous aussi, noble et infortuné baron de Trinque, c'est à vous que je songe en écrivant. C'est à vous que je raconte mes revers et mes épreuves. Il me semble que je vous parle, que je suis avec vous, et que dans ma triste solitude, j'échappe au néant de la mort, en vous initiant au secret de ma vie. Peut-être mourrai-je ici d'ennui et de misère, quoique jusqu'à présent ma santé ni mon courage ne soient sensiblement altérés. Mais j'ignore les maux que me réserve l'avenir, et si j'y succombe, du moins une trace de moi et une peinture de mon agonie resteront dans vos mains. Ce sera l'héritage de quelque prisonnier qui me succédera dans cette cellule et qui retrouvera la cachette de la muraille, où j'ai trouvé moi-même le papier et le crayon qui me servent à vous écrire. Oh, maintenant, je remercie ma mère de m'avoir fait apprendre à écrire, elle qui ne le savait pas. Oui, c'est un grand soulagement que d'écrire en prison. Mon triste chant ne perçait pas l'épaisseur de ces murailles et ne pouvait aller jusqu'à vous. Mon écriture vous parviendra un jour. Et qui sait si je ne trouverai pas un moyen de vous l'envoyer bientôt. J'ai toujours compté sur la Providence. Le 3. J'écrirai brièvement et sans m'arrêter à de longues réflexions. Cette petite provision de papier, fin comme de la soie, ne sera pas éternelle, et ma captivité le sera peut-être. Je vous dirai quelques mots chaque soir avant de m'endormir. Je veux aussi ménager ma bougie. Je ne puis écrire le jour, je risquerais d'être surprise. Je ne vous raconterai pas pourquoi j'ai été envoyée ici, je ne le sais pas. Et en tâchant de le deviner avec vous, je compromettrai peut-être des personnes qui ne m'ont pourtant rien confié. Je ne me plaindrai pas non plus des auteurs de mon infortune. Il me semble que si je me laissais aller aux reproches et aux ressentiments, je perdrais la force qui me soutient. Je ne veux penser ici qu'à ceux que j'aime et à celui que j'ai aimé. Je chante tous les soirs pendant 2 heures, et il me semble que je fais des progrès. À quoi cela me servira-t-il? Les voûtes de mon cachot me répondent, elles ne m'entendent pas. Mais Dieu m'entend, et quand j'ai composé un cantique que je lui chante dans la ferveur de mon âme, j'éprouve un calme céleste et je m'endors presque heureuse. Il me semble que du ciel on me répond, et qu'une voix mystérieuse me chante dans mon sommeil un autre cantique plus beau que le mien, que j'essaie le lendemain de me rappeler et de chanter à mon tour. À présent que j'ai des crayons, comme il me reste un peu de papier réglé, je vais écrire mes compositions. Un jour, peut-être, vous les essayerez, mes chers amis, et je ne serai pas morte tout entière. Le 4. Ce matin, le rouge-gorge est entré dans ma chambre, et il est resté plus d'un quart d'heure. Il y a 15 jours que je l'invite à me faire cet honneur, et enfin il s'y est décidé aujourd'hui. Il demeure dans un vieux lierre qui se traîne jusqu'à ma fenêtre, et que mes gardiens épargnent parce qu'ils donnent un peu de verdure à leur porte située à quelques pieds au-dessous. Le joli petit oiseau me regardait depuis longtemps d'un air curieux et méfiant. Attisé par la mie de pain que je lui roule en forme de petit ver et que je fais tourner dans mes doigts pour l'agacer par l'aspect d'une proie vivante, il venait légèrement et, comme porté par un coup de vent, jusqu'auprès de mes barreaux. Mais dès qu'il s'apercevait de la tromperie, il s'en allait d'un air de reproche et faisait entendre un petit râlement qui ressemblait à une injure. Et puis, ces vilains barreaux de fer, si serrés et si noirs, à travers lesquels nous avons fait connaissance, ressemblent tant à une cage qu'il en avait horreur. Cependant, aujourd'hui, comme je ne pensais plus à lui, il s'est déterminé à les traverser, et il est venu, sans penser à moi, je le crois bien aussi, se poser sur un barreau de chaise dans ma chambre. Je n'ai pas bougé afin de ne pas l'effaroucher, et il s'est mis à regarder autour de lui d'une manière étonnée. Il avait l'air d'un voyageur qui vient de découvrir un pays inconnu et qui fait ses observations afin de raconter des choses merveilleuses à ses amis. C'était moi qui l'étonnais le plus, et tant que je n'ai pas remué, il a eu l'air de me trouver fort comique. Avec son grand œil rond et son bec en l'air comme un petit nez retroussé, il a une physionomie étourdie et impertinente qui est la plus spirituelle du monde. Enfin, j'ai toussé un peu pour entamer la conversation, et il s'est envolé, tout effrayé. Mais dans sa précipitation, il n'a pas su retrouver la fenêtre. Il s'est élevé jusqu'au plafond et il a tourné en rond pendant 1 minute, comme un être qui a perdu la tête. Enfin, il s'est calmé en voyant que je ne songeais pas à le poursuivre. Et, fatigué de sa peur plus que de son vol, il est venu s'abattre sur le poêle. Il a paru fort agréablement surpris de cette chaleur, car c'est un oiseau très frileux. Et après avoir fait encore quelques tours au hasard, il est revenu, à plusieurs reprises, y réchauffer ses pieds mignons avec une secrète volupté. Il a pris courage jusqu'à becqueter mes petits verres en mie de pain qui étaient sur la table, et après les avoir secoués d'un air de mépris et éparpillés autour de lui, il a fini, pressé de la faim sans doute, par en avaler un qu'il n'a pas trouvé trop mauvais. En ce moment, M. Schwartz, mon gardien, est entré, et le cher petit visiteur a retrouvé la fenêtre pour se sauver. Mais j'espère qu'il reviendra, car il ne s'est guère éloigné de la journée, et il n'a cessé de me regarder comme pour me le promettre et me dire qu'il n'a plus si mauvaise opinion de moi et de mon pain. En voilà bien long sur un rouge-gorge. Je ne me croyais pas si enfant. Est-ce que la prison conduirait à l'idiotisme? Ou bien y a-t-il un mystère de sympathie et d'affection entre tout ce qui respire sous le ciel? J'ai eu ici mon clavecin pendant quelques jours. J'ai pu travailler, étudier, composer, chanter. Rien de tout cela ne m'a ému jusqu'ici autant que la visite de ce petit oiseau, de cet être. Oui, c'est un être, et c'est pour cela que mon cœur a battu en le voyant près de moi. Cependant, mon gardien est un être aussi, un être de mon espèce. Sa femme, son fils que je vois plusieurs fois le jour, la sentinelle qui se promène jour et nuit sur le rempart et qui ne me perd pas de vue, ce sont des êtres mieux organisés, des amis naturels, des frères devant Dieu. Pourtant, leur aspect m'est beaucoup plus pénible qu'agréable. Ce gardien me fait l'effet d'un guichet, sa femme d'un cadenas, son fils d'une pierre scellée dans le mur. Dans le soldat qui me garde, je ne vois qu'un fusil braqué sur moi. Il me semble que ces gens-là n'ont rien d'humain, rien de vivant, que ce sont des machines, des instruments de torture et de mort. Si ce n'était la crainte d'être impie, je les haïrais. Oh, mon rouge-gorge, toi, je t'aime, il n'y a pas à dire, je le sens. Explique, qui pourra ce genre d'amour? Le 5. Autre événement. Voilà le billet que j'ai reçu ce matin, d'une écriture peu lisible, sur un morceau de papier fort malpropre. Ma sœur, puisque l'esprit te visite, tu es une sainte, j'en étais bien sûre. Je suis ton ami et ton serviteur. Dispose de moi et commande tout ce que tu voudras à ton frère. Quel est cet ami, ce frère improvisé? Impossible de deviner. J'ai trouvé cela sur ma fenêtre ce matin, en l'ouvrant pour dire bonjour au rouge-gorge. Serait-ce lui qui me l'aurait apporté? Je suis tentée de croire que c'est lui qui me l'a écrit. Tant il y a qu'il me connaît, le cher petit être, et qu'il commence à m'aimer. Il ne s'approche presque jamais de la cuisine des Schwartz, dont la lucarne exhale une odeur de graisse chaude qui monte chez moi, et qui n'est pas le moindre désagrément de mon habitation. Mais je ne désire plus d'en changer depuis que mon petit oiseau l'adopte. Il a trop bon goût pour se familiariser avec ce porte-clés gargotier, sa méchante femme et sa laide progéniture. C'est à moi, décidément, qu'il accorde sa confiance et son amitié. Il est rentré dans ma chambre aujourd'hui. Il y a déjeuné avec appétit, et quand je me suis promenée à midi sur l'esplanade, il est descendu de son lierre et il est venu voltiger autour de moi. Il faisait entendre son petit râle, comme pour m'agacer et attirer mon attention. Le vilain Gottlieb était sur le pas de sa porte et me regardait, en ricanant, avec ses yeux égarés. Cet être est toujours accompagné d'un affreux chat roux qui regarde mon rouge-gorge d'un œil plus horrible encore que celui de son maître. Cela me fait frémir. Je hais ce chat presque autant que Madame Schwartz la fouilleuse. Le 6. Encore un billet ce matin. Voilà qui devient bizarre. Même écriture crochue, pointue, pâte à rafler, malpropre. Même papier à sucre. Mon Lindor n'est pas un hidalgo, mais il est tendre et enthousiaste. Chère sœur, âme élue et marquée du doigt de Dieu, tu te méfies de moi. Tu ne veux pas me parler. N'as-tu rien à me commander? Ne puis-je te servir en rien? Ma vie t'appartient. Commande donc à ton frère. Je regarde la sentinelle. C'est un butor de soldat qui tricote son bas en se promenant de long en large, le fusil sur l'épaule. Il me regarde aussi, et semble plus disposé à m'envoyer une balle qu'un poulet. De quelque côté que je tourne les yeux, je ne vois que d'immenses murailles grises, hérissées d'orties, bordées d'un fossé, lequel est bordé lui-même d'un autre ouvrage de fortification, dont je ne sais ni le nom ni l'usage, mais qui me prive de la vue de l'étang. Et sur le haut de cet ouvrage avancé, une autre sentinelle, dont j'aperçois le bonnet et le bout du fusil, et dont j'entends le cri sauvage à chaque barque qui rase la citadelle. « Passez au large !» Si je voyais au moins ces barques, et un peu d'eau courante, et un coin de paysage. J'entends seulement le clapotement de la rame, quelquefois une chanson de pêcheur, et au loin, quand le vent souffle de ce côté, le bouillonnement des deux rivières qui se réunissent à une certaine distance de la prison. Mais d'où me viennent ces billets mystérieux et ce beau dévouement dont je ne sais que faire? Peut-être que mon rouge-gorge le sait, mais le rusé ne voudra pas me le dire. Le 7. En regardant de tous mes yeux, pendant que je me promenais sur mon rempart, j'ai aperçu une petite ouverture étroite pratiquée dans le flanc de la tour que j'habite, à une dizaine de pieds au-dessus de ma fenêtre, et presque entièrement caché par les dernières branches du lierre qui montent jusque-là. Un si petit jour ne peut éclairer la demeure d'un vivant, pensais-je en frémissant. J'ai pourtant voulu savoir à quoi m'en tenir, et j'ai essayé d'attirer Gottlieb sur le rempart en flattant sa monomanie, ou plutôt sa passion malheureuse qui est de faire des souliers. Je lui ai demandé s'il pourrait bien me fabriquer une paire de pantoufles. Et pour la première fois, il s'est approché de moi sans y être forcé, et il m'a répondu sans embarras. Mais sa manière de parler est aussi étrange que sa figure, et je commence à croire qu'il n'est pas idiot, mais fou. « Des souliers pour toi ?» m'a-t-il dit, car il tutoie tout le monde. « Non, je n'oserais. Il est écrit « Je ne suis pas digne de délier les cordons de ses souliers. » Je voyais sa mère à trois pas de la porte et prête à venir se mêler à la conversation. N'ayant donc pas le temps de m'arrêter à comprendre le motif de son humilité ou de sa vénération, je me suis hâtée de lui demander si l'étage au-dessus de moi était habité, n'espérant guère, cependant, obtenir une réponse raisonnable. « Il n'est pas habité, » m'a répondu très judicieusement Gottlieb. « Il ne pourrait pas l'être, il n'y a qu'un escalier qui conduit à la plateforme. »« Et la plateforme est isolée ? Elle ne communique avec rien ? Pourquoi me demandes-tu cela, puisque tu le sais ? Je ne le sais pas, et ne tiens guère à le savoir. C'est pour te faire parler, Gottlieb, et pour voir si tu as autant d'esprit qu'on le dit. J'ai beaucoup, beaucoup d'esprit, m'a répondu le pauvre Gottlieb d'un ton grave et triste, qui contrastait avec le comique de ses paroles. En ce cas, tu peux m'expliquer ? Ai-je repris, car les moments étaient précieux. « Comment cette cour est construite ?»« Demande-le au Rouge-Gorge » a-t-il répondu avec un étrange sourire. « Il le sait, lui qui vole et qui va partout. Moi, je ne sais rien, puisque je ne vais nulle part. »« Quoi ? Pas même jusqu'au haut de cette tour où tu demeures ? Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette muraille ?»« J'y ai peut-être passé, mais je n'y ai pas fait attention. » Je ne regarde presque jamais rien, ni personne. Cependant, tu regardes le Rouge-Gorge, tu le vois, tu le connais. Oh, lui, c'est différent, on connaît bien les anges, ce n'est pas une raison pour regarder les murs. C'est très profond ce que tu dis là, Gottlieb, pourrais-tu me l'expliquer? Demande au Rouge-Gorge, je te dis qu'il sait tout, lui, il peut aller partout, mais il n'entre jamais que chez ses pareils. « C'est pourquoi il entre dans ta chambre. »« Grand merci, Gottlieb, tu me prends pour un oiseau. »« Le Rouge-Gorge n'est pas un oiseau. »« Qu'est-ce donc ?»« C'est un ange, tu le sais. »« En ce cas, j'en suis un aussi ?»« Tu l'as dit. »« Tu es galant, Gottlieb. »« Galant ?» a dit Gottlieb en me regardant d'un air profondément étonné. « Qu'est-ce que c'est que galant ?» « Tu ne connais pas ce mot-là ? Non ? Comment sais-tu que le Rouge-Gorge entre dans ma chambre ? Je l'ai vu, et d'ailleurs il me l'a dit. »« Il te parle donc ? Quelquefois, » a dit Gottlieb en soupirant. « Bien rarement, mais hier il m'a dit « Non, je n'entrerai jamais dans ton enfer de cuisine. Les anges n'ont pas commerce avec les méchants esprits. »«
Est-ce que tu serais un méchant d'esprit, Gottlieb ?
« Oh non, pas moi, mais... » Ici, Gottlieb a posé un doigt sur ses grosses lèvres d'un air mystérieux. « Mais qui ?» Il n'a rien répondu, mais il m'a montré son chat à la dérobée et comme s'il craignait d'en être aperçu. « C'est donc pour cela que tu l'appelles d'un si vilain nom, Belzébuth, je crois ?»«
Chut !»
a repris Gottlieb. « C'est son nom, et il le connaît bien, il le porte depuis que le monde existe, mais il ne le portera pas toujours. »«
Sans doute, quand il sera mort. »«
Il ne mourra pas, lui, il ne peut pas mourir, et il en est bien fâché, parce qu'il ne sait pas qu'un jour viendra où il sera pardonné. »
Ici, nous fûmes interrompus par l'approche de Madame Schwartz, qui s'émerveillait de voir Gottlieb causer enfin librement avec moi. Elle en était toute joyeuse et me demanda si j'étais contente de lui. Très contente, je vous assure. Gottlieb est fort intéressant et j'aurai maintenant du plaisir à le faire parler.
Ah, mademoiselle, vous nous rendrez grand service, car le pauvre enfant n'a personne à qui causer. Et avec nous, c'est comme un fait exprès, il ne veut pas desserrer les dents. Es-tu original, mon pauvre Gottlieb, et têtu? Voilà que tu causes très bien avec mademoiselle, que tu ne connais pas, tandis qu'avec tes parents. »
Gottlieb tourna aussitôt les talons et disparut dans la cuisine, sans paraître avoir entendu seulement la voix de sa mère.
« Voilà comme il fait toujours !» s'écria Madame Schwartz. « Quand son père ou moi lui adressons la parole, on jurerait 29 fois sur 30 qu'il est devenu sourd. Mais enfin, que vous disait-il donc, mademoiselle? De quoi diantre pouvait-il vous parler si longtemps ?»«
Je vous avoue que je ne l'ai pas bien compris, » répondis-je. « Il faudrait savoir à quoi se rapportent ses idées. Laissez-moi le faire causer de temps en temps sans le déranger, et quand je serai au fait, je vous expliquerai ce qui se passe dans sa tête. »
« Mais enfin, mademoiselle, il n'a pas l'esprit dérangé !»«
Je ne le pense pas, » ai-je répondu. Et j'ai fait là un gros mensonge, que Dieu me le pardonne. Mon premier mouvement a été d'épargner l'illusion de cette pauvre femme, qui est une méchante sorcière, à la vérité, mais qui est mère, et qui a le bonheur de ne pas voir la folie de son fils. Cela est toujours fort étrange. Il faut que Gottlieb, qui m'a montré si naïvement ses bizarreries, est une folie silencieuse avec ses parents. En y songeant, je me suis imaginé que je tirerais peut-être de la simplicité de ce malheureux quelques renseignements sur les autres habitants de ma prison, et que je découvrirais, par le hasard de ses réponses, l'auteur de mes billets anonymes. Je veux donc m'en faire un ami, d'autant plus que ses sympathies me paraissent soumises à celles du rouge-gorge, et que décidément le rouge-gorge m'honore de la sienne. Il y a de la poésie dans l'esprit malade de ce pauvre enfant. Le petit oiseau un ange, le chat un méchant esprit qui sera pardonné. Qu'est-ce que tout cela? Il y a dans ces têtes germaniques, même les plus détraquées, un luxe d'imagination que j'admire. Tant il y a que Madame Schwartz est fort contente de ma condescendance, et que me voilà très bien avec elle pour le moment. Les billevesées de Gottlieb me seront une distraction. Pauvre être, celui-là, depuis aujourd'hui que je le connais, il ne m'inspire plus d'éloignement. Un fou, cela ne doit pas être méchant dans ce pays-ci, où les gens d'esprit et de haute raison sont si loin d'être bons. Le 8. Troisième billet sur ma fenêtre. « Chère sœur, la plateforme est isolée, mais l'escalier qui y monte communique avec un autre corps de bâtiment au bout duquel se trouve l'appartement d'une dame qui est prisonnière comme toi. Son nom est un mystère, mais le rouge-gorge te le dira si tu l'interroges. Voilà, au reste, ce que tu voulais savoir du pauvre Gottlieb et ce qu'il ne pouvait t'apprendre. »
Quel est donc cet ami qui sait, qui voit, qui entend tout ce que je fais et tout ce que je dis? Je m'y perds. Il est donc invisible? Tout cela me paraît si merveilleux que je m'en amuse sérieusement. Il me semble que, comme dans mon enfance, je vis au milieu d'un conte de fées et que mon rouge-gorge va parler tout d'un coup. Mais s'il est vrai de dire de ce charmant petit lutin qu'il ne lui manque que la parole, il n'est que trop certain qu'elle lui manque absolument, ou que je ne puis comprendre son langage. Le voilà tout à fait habitué à moi. Il entre dans ma chambre, il en sort, il y revient, il est chez lui. Je remue, je marche, il ne s'enfuit plus qu'à la portée du bras, et il revient aussitôt. S'il aimait beaucoup le pain, il m'aimerait davantage, car je ne puis me faire illusion sur la cause de son attachement pour moi. C'est la faim, et un peu aussi le besoin et le désir de se réchauffer à mon poêle. Si je peux réussir à attraper une mouche, elles sont encore si rares, je suis certaine qu'il viendra la prendre dans mes doigts. Car déjà, il examine de très près les morceaux que je lui présente, et si la tentation était plus forte, il mettrait de côté toute cérémonie. Je me souviens maintenant d'avoir entendu dire à Albert qu'il ne fallait, pour apprivoiser les animaux les plus craintifs, pour peu qu'ils eussent une étincelle d'intelligence, que quelques heures d'une patience à toute épreuve.
il avait rencontré une Zingara, prétendue sorcière, qui ne restait pas un jour entier dans un même coin de la forêt sans que quelques oiseaux vinssent se poser sur elle. Elle passait pour avoir un charme, et elle prétendait recevoir d'eux, comme Apollonius de Tyane, dont Albert m'a raconté aussi l'histoire, des révélations sur les choses cachées. Albert assurait que tout son secret, c'était la patience avec laquelle elle avait étudié les instincts de ces petites créatures. Outre une certaine affinité de caractère qui se rencontre souvent entre des êtres de notre espèce et des êtres d'une espèce particulière. À Venise, on élève beaucoup d'oiseaux, on en a la passion, et je la conçois maintenant. C'est que cette belle ville, séparée de la terre, a quelque chose d'une prison. On y excelle dans l'éducation des rossignols. Les pigeons, protégés par une loi spéciale et presque vénérés par la population, y vivent librement sur les vieux édifices et sont si familiers que dans les rues et sur les places, il faut se déranger pour ne pas les écraser en marchant. Les goélands du port se posent sur les bras des matelots. Aussi, il y a à Venise des oiseleurs fameux. J'ai été fort liée, quand j'étais moi-même un enfant, avec un enfant du peuple qui faisait ce trafic, et à qui il suffisait de confier une heure l'oiseau le plus farouche pour qu'il vous le rendît aussi apprivoisé que s'il eût été élevé dans la domesticité. Je m'amuse à répéter ces expériences sur mon rouge-gorge, et le voilà qui se familiarise de minute en minute. Quand je suis dehors, il me suit, il m'appelle. Quand je me mets à ma fenêtre, il accourt et vient à moi. M'aimerait-il? Pourrait-il m'aimer? Moi, je sens que je l'aime. Mais lui, il me connaît et ne me craint pas, voilà tout. L'enfant au berceau n'aime pas autrement sa nourrice, sans doute. Un enfant, quelle tendresse cela doit inspirer! Hélas, je crois qu'on aime passionnément que ce qui ne peut guère nous le rendre. L'ingratitude et le dévouement, ou tout au moins l'indifférence et la passion, c'est là l'éternel hyménée des êtres. Anzoletto, tu ne m'as pas aimé. Et toi, Albert, qui m'aimais tant, je t'ai laissé mourir. Me voilà réduite à aimer un rouge-gorge. Et je me plaindrai de n'avoir pas mérité mon sort. Vous croyez peut-être, mes amis, que j'ose plaisanter sur un pareil sujet. Non. Ma tête s'égare peut-être dans la solitude. Mon cœur, privé d'affection, se consume, et ce papier est trempé de mes larmes. Je m'étais promis de ne pas le gaspiller, ce précieux papier, et voilà que je le couvre de puérilité. J'y trouve un grand soulagement, et ne puis m'en défendre. Il a plu toute la journée. Je n'ai pas vu Gottlieb, je ne me suis pas promenée. J'ai été occupée du rouge-gorge tout ce temps, et cet enfantillage a fini par m'attrister étrangement. Quand l'oiseau espiègle et inconstant a cherché à me quitter en becquetant la vitre, je lui ai cédé, j'ai ouvert la fenêtre par un sentiment de respect pour la sainte liberté que les hommes ne craignent pas de ravir à leurs semblables. Mais j'ai été blessée de cet abandon momentané, comme si cette bête me devait quelque chose par tant de soins et d'amour. Je crois bien que je deviens folle, et qu'avant peu, je comprendrai parfaitement les divagations de Gottlieb. Le 9. Qu'ai-je appris, ou plutôt, qu'ai-je cru apprendre, car je ne sais rien encore, mais mon imagination travaille énormément. D'abord, j'ai découvert l'auteur des billets mystérieux. C'est le dernier que j'eusse imaginé. Mais ce n'est déjà plus de cela que je songe à m'émerveiller. N'importe, je vous raconterai toute cette journée. Dès le matin, j'ai ouvert ma petite fenêtre, composée d'un seul carreau de vitre, assez grand, assez clair, grâce à la propreté avec laquelle je les suis pour ne rien perdre du peu de jour qui m'arrive et que me dispute le vilain grillage. Même le lierre menace de m'envahir et de me plonger dans l'obscurité. Mais je n'ose encore en arracher une seule feuille. Ce lierre vit, il est libre dans sa nature d'existence.
le contrarier, le mutiler. Il faudra pourtant bien s'y résoudre. Il ressent l'influence du mois d'avril, il se hâte de grandir, il s'étend, il s'accroche de tous côtés. Il a ses racines scellées dans la pierre, mais il monte, il cherche l'air et le soleil. La pauvre pensée humaine en fait autant. Je comprends maintenant qu'il y ait eu jadis des plantes sacrées, des oiseaux sacrés. Le rouge-gorge est venu aussitôt et il s'est posé sur mon épaule, sans plus de façon. Puis il s'est mis, selon sa coutume, à regarder tout, à toucher à tout. Pauvre être, il y a si peu de choses ici pour l'amuser. Et pourtant, il est libre, il peut habiter les champs, et il préfère la prison, son vieux lierre et ma triste cellule. M'aimerait-il ? Non, il a chaud dans ma chambre, et il prend goût à mes miettes de pain. Je suis effrayée maintenant de l'avoir si bien apprivoisé. S'il allait entrer dans la cuisine de Schwartz et devenir la proie de son vilain chat. Ma sollicitude lui causerait cette mort affreuse, être déchiré, dévoré par une bête féroce. Et que faisons-nous donc, nous autres faibles humains, cœurs sans détour et sans défense, sinon d'être torturés et détruits par des êtres sans pitié qui nous font sentir, en nous tuant lentement, leurs griffes et leurs dents cruelles. Le soleil s'est levé clair, et ma cellule était presque couleur de rose, comme autrefois ma chambre de la Corte Minelli, quand le soleil de Venise. Mais il ne faut pas penser à ce soleil-là. Il ne se lèvera plus sur ma tête. Puissiez-vous, ô mes amis, saluer pour moi la riante Italie, et les cieux immenses, et il firmamento lucido, que je ne reverrai sans doute plus. J'ai demandé à sortir. On me l'a permis, quoique ce fût de meilleure heure que de coutume. J'appelle cela sortir. Une plateforme de 30 pieds de long, bordée d'un marécage et encaissée entre de hautes murailles. Pourtant, ce lieu n'est pas sans beauté. Du moins, je me le figure à présent que je l'ai contemplé sous tous les aspects. La nuit, il est beau à force d'être triste. Je suis sûre qu'il y a ici bien des gens innocents comme moi et beaucoup plus mal partagés, des cachots d'où l'on ne sort jamais, où jamais le jour ne pénètre, que la lune même, l'amie des cœurs désolés, ne visite point. Ah, j'aurais tort de murmurer. Mon Dieu, si j'avais une part de puissance sur la terre, je voudrais faire des heureux. Gottlieb est accouru vers moi, clopin clopant, et souriant autant que sa bouche pétrifiée peut sourire. On ne l'a pas troublé, on l'a laissé seul avec moi. Et tout à coup, miracle, Gottlieb s'est mis à parler presque comme un être raisonnable. « Je ne t'ai pas écrit cette nuit, » m'a-t-il dit, « et tu n'as pas trouvé de billet sur ta fenêtre. C'est que je ne t'avais pas vu hier et que tu ne m'avais rien commandé. »«
Que dis-tu, Gottlieb ? C'est toi qui m'écrivais ?»
Mais quel autre eût pu le faire? Tu n'avais pas deviné que c'était moi? Mais je ne t'écrirai plus inutilement à présent que tu veux bien me parler. Je ne veux pas t'importuner, mais te servir.
Bon Gottlieb, tu me plains donc? Tu prends donc intérêt à moi?
Oui, puisque j'ai reconnu que tu étais un esprit de lumière.
Je ne suis rien de plus que toi, Gottlieb. Tu te trompes.
Je ne me trompe pas. Ne t'entends-je pas chanter?
Tu aimes donc la musique?
J'aime la tienne. Elle est selon Dieu et selon mon cœur.
Ton cœur est pieux. Ton âme est pure. Je le vois, Gottlieb.
Je travaille à les rendre telles. Les anges m'assisteront. Et je vaincrai l'esprit des ténèbres qui s'est appesanti sur mon pauvre corps, mais qui n'a pu s'emparer de mon âme.
Peu à peu, Gottlieb s'est mis à parler avec enthousiasme, mais sans cesser d'être noble et vrai dans ses symboles poétiques. Enfin, que vous dirais-je, cet idiot, ce fou, est arrivé à une véritable éloquence en parlant de la bonté de Dieu, des misères humaines, de la justice future d'une providence rémunératrice, des vertus évangéliques, des devoirs du vrai croyant, des arts même, de la musique et de la poésie. Je n'ai pas pu encore comprendre dans quelle religion il avait puisé toutes ces idées et cette fervente exaltation, car il ne m'a semblé ni catholique ni protestant. Et tout en me disant à plusieurs reprises qu'il croyait à la seule, à la vraie religion, il ne m'a rien appris, sinon qu'il est, à l'insu de ses parents, d'une secte particulière. Je suis trop ignorante pour deviner laquelle. J'étudierai peu à peu le mystère de cette âme singulièrement forte et belle, singulièrement malade et affligée. Car, en somme, le pauvre Gottlieb est fou, comme Zenko l'était dans sa poésie, comme Albert l'était aussi dans sa vertu sublime. La démence de Gottlieb a reparu, lorsqu'après avoir parlé quelque temps avec chaleur, son enthousiasme est devenu plus fort que lui, et alors il s'est mis à divaguer d'une manière enfantine qui me faisait mal, sur l'ange rouge-gorge et sur le chat démon, et aussi sur sa mère, qui a fait alliance avec le chat et avec le mauvais esprit qui est en lui. Enfin de son père, qui a été changé en pierre par un regard de ce pauvre matou Belzébuth. J'ai réussi à le calmer en le distrayant de ses sombres fantaisies, et je l'ai interrogé sur les autres prisonniers. Je n'avais plus aucun intérêt personnel à apprendre ces détails, puisque les billets, au lieu d'être jetés sur ma fenêtre du haut de la tour, comme je le supposais, étaient hissés d'en bas par Gottlieb, avant le jour, au moyen de je ne sais quel engin, sans doute fort simple. Mais Gottlieb, obéissant à mes intentions avec une docilité singulière, s'était déjà enquis de ce que la veille j'avais paru désirer de savoir. Il m'a appris que la prisonnière qui demeure dans le bâtiment situé derrière moi était jeune et belle et qu'il l'avait aperçue. Je ne faisais pas grande attention à ses paroles, lorsque tout à coup il m'a dit son nom, qui m'a fait tressaillir. Cette captive s'appelle Amélie. Amélie ? Quelle mer d'inquiétude, quel monde de souvenirs ce nom réveille en moi. J'ai connu deux Amélie, qui toutes deux ont précipité ma destinée dans l'abîme par leur confidence. Celle-ci est-elle la princesse de Prusse ou la jeune baronne de Rudolfstadt ? Sans doute ni l'une ni l'autre. Gottlieb, qui n'a aucune curiosité pour son compte, et qui semble ne pas pouvoir s'aviser de faire un pas ni une question si je ne le pousse en avant comme un automate, n'a rien su lui dire de plus que ce prénom d'Amélie. Il a vu la captive, mais il l'a vue à sa manière, c'est-à-dire à travers un nuage. Elle doit être jeune et belle, Madame Schwartz le dit. Mais lui, Gottlieb, avoue qu'il ne s'y connaît pas. Il a seulement pressenti, en l'apercevant à sa fenêtre, que ce n'est pas un bon esprit, un ange. On fait mystère de son nom de famille. Elle est riche et fait de la dépense chez Schwartz. Mais elle est au secret comme moi. Elle ne sort jamais. Elle est souvent malade. Voilà tout ce que j'ai pu arracher. Gottlieb n'a qu'à écouter le caquet de ses parents pour en savoir davantage, car on ne se gêne pas devant lui. Il m'a promis d'écouter et de me dire depuis combien de temps cette Amélie est ici. Quant à son nom, il paraîtrait que les Schwartz l'ignorent. Pourrait-il l'ignorer si c'était l'abbesse de Quedlinburg? Le roi aurait-il mis sa sœur en prison? On y met les princesses comme les autres, et plus que les autres. La jeune baronne de Rudolfstadt, pourquoi serait-elle ici? De quel droit Frédéric l'aurait-il privée de sa liberté? Allons, c'est une curiosité de recluse qui me travaille, et mes commentaires sur un simple prénom sont aussi d'une imagination oisive et peu saine. N'importe, j'aurai une montagne sur le cœur tant que je ne saurai pas quelle est cette compagne d'infortune qui porte un nom si émouvant pour moi. Le 1er mai. Plusieurs jours se sont passés sans que j'aie pu écrire. Divers événements ont rempli cet intervalle. Je me hâte de le combler en vous les racontant. D'abord, j'ai été malade. De temps en temps, depuis que je suis ici, je ressens les atteintes d'une fièvre au cerveau qui ressemble en petit à ce que j'ai éprouvé en grand au château des Géants, après avoir été dans le souterrain à la recherche d'Albert.
J'ai des insomnies cruelles, entrecoupées de rêves durant lesquels je ne saurais dire si je veille ou si je dors. Et dans ces moments-là, il me semble toujours entendre ce terrible violon jouant ses vieux airs bohémiens, ses cantiques et ses chants de guerre. Cela me fait bien du mal, et pourtant, quand cette imagination commence à s'emparer de moi, je ne puis me défendre de prêter l'oreille et de recueillir avec avidité les faibles sons qu'une brise lointaine semble m'apporter. Tantôt je me figure que ce violon joue en glissant sur les eaux qui dorment autour de la citadelle. Tantôt qu'il descend du haut des murailles, et d'autres fois qu'il s'échappe du soupirail d'un cachot. J'en ai la tête et le cœur brisés. Et pourtant, quand la nuit vient, au lieu de songer à me distraire en écrivant, je me jette sur mon lit et je m'efforce de retomber dans ce demi-sommeil qui m'apporte mon rêve, ou plutôt mon demi-rêve musical. Car il y a quelque chose de réel là-dessous. Un véritable violon résonne certainement dans la chambre de quelque prisonnier. Mais que joue-t-il? Et de quelle façon? Il est trop loin pour que j'entende autre chose que des sons entrecoupés. Mon esprit malade invente le reste, je n'en doute pas. Il est dans ma destinée désormais de ne pouvoir douter de la mort d'Albert et de ne pouvoir pas non plus l'accepter comme un malheur accompli. C'est qu'apparemment, il est dans ma nature d'espérer en dépit de tout et de ne point me soumettre à la rigueur du sort. Il y a 3 nuits, je m'étais enfin endormie tout à fait lorsque je fus réveillée par un léger bruit dans ma chambre. J'ouvris les yeux. La nuit était fort sombre et je ne pouvais rien distinguer. Mais j'entendis distinctement marcher auprès de mon lit, quoiqu'on marchât avec précaution. Je pensais que c'était Madame Schwartz qui prenait la peine de venir s'assurer de mon état et je lui adressai la parole. Mais on ne me répondit que par un profond soupir et on sortit sur la pointe du pied. J'entendis refermer et verrouiller ma porte. Et comme j'étais fort accablée, je me rendormis sans faire beaucoup d'attention à cette circonstance. Le lendemain, j'en avais un souvenir si confus et si lourd que je n'étais pas sûre de ne pas l'avoir rêvé. J'eus le soir un dernier accès de fièvre plus complet que les autres, mais que je préférais beaucoup à mes insomnies inquiètes et à mes rêveries décousues. Je dormis complètement. Je rêvais beaucoup. Mais je n'entendis pas le lugubre violon, et chaque fois que je m'éveillais, je sentis bien nettement la différence du sommeil au réveil. Dans un de ces intervalles, j'entendis la respiration égale et forte d'une personne endormie non loin de moi. Il me semblait même distinguer quelqu'un sur mon fauteuil. Je ne fus point effrayée. Madame Schwartz était venue à minuit m'apporter de la tisane. Je crus que c'était elle encore. J'attendis quelque temps sans vouloir l'éveiller, et lorsque je crus m'apercevoir qu'elle s'éveillait d'elle-même, je la remerciai de sa sollicitude et lui demandai l'heure qu'il était. Alors on s'éloigna, et j'entendis comme un sanglot étouffé, si déchirant, si effrayant, que la sueur m'en vient encore au front quand je me le rappelle. Je ne saurais dire pourquoi il me fit tant d'impression. Il me sembla qu'on me regardait comme très malade, peut-être comme mourante, et qu'on m'accordait quelque pitié. Mais je ne me trouvais pas assez mal pour me croire en danger, et d'ailleurs, il m'était tout à fait indifférent de mourir d'une mort si peu douloureuse, si peu sentie, et au milieu d'une vie si peu regrettable. Dès que Madame Schwartz rentra chez moi à 7 heures du matin, comme je ne m'étais pas rendormie et que j'avais passé les dernières heures de la nuit dans un état de lucidité parfaite, j'avais un souvenir très net de cette étrange visite. Je priai ma geôlière de me l'expliquer, mais elle secoua la tête en me disant qu'elle ne savait ce que je voulais dire, qu'elle n'était pas revenue depuis minuit, et que, comme elle avait toutes les clés des cellules confiées à sa garde sous son oreiller pendant qu'elle dormait, il était bien certain que j'avais fait un rêve ou que j'avais eu une vision. J'étais pourtant si loin d'avoir eu le délire que je me sentis assez bien vers midi pour désirer prendre l'air.
Je descendis sur l'esplanade, toujours accompagné de mon rouge-gorge, qui semblait me féliciter sur le retour de mes forces. Le temps était fort agréable. La chaleur commence à se faire sentir ici, et les brises apportent de la campagne de tièdes bouffées d'air pur, de vagues parfums d'herbe, qui réjouissent le cœur malgré qu'on en ait. Gottlieb accourut. Je le trouvais fort changé et beaucoup plus laid que de coutume. Pourtant, il y a une expression de bonté angélique et même de vive intelligence dans le chaos de cette physionomie lorsqu'elle s'illumine. Il avait ses gros yeux si rouges et si éraillés que je lui demandai s'il y avait mal. « J'y ai mal, en effet, » me répondit-il, « parce que j'ai beaucoup pleuré. » « Mais quel chagrin as-tu donc, mon pauvre Gottlieb ?»« C'est qu'à minuit, ma mère est descendue de la cellule en disant à mon père « Le numéro 3 est très malade ce soir. Il a la fièvre tout de bon. Il faudra mander le médecin. Je ne me soucie pas que cela nous meure entre les mains. » Ma mère croyait que j'étais endormie, mais moi, je n'avais pas voulu m'endormir avant de savoir ce qu'elle dirait. Je savais bien que tu avais la fièvre. Mais quand j'ai entendu que c'était dangereux, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, jusqu'à ce que le sommeil m'ait vaincu. Je crois bien pourtant que j'ai pleuré toute la nuit en dormant, car je me suis éveillée ce matin avec les yeux en feu, et mon coussin était tout trempé de larmes. L'attachement du pauvre Gottlieb m'a vivement attendri, et je l'en ai remercié en serrant sa grande patte noire qui sent le cuir et la poix d'une lieue. Puis l'idée m'est venue que Gottlieb pourrait bien, dans son zèle naïf, m'avoir rendu cette visite nocturne plus qu'inconvenante. Je lui ai demandé s'il ne s'était pas relevé et s'il n'était pas venu écouter à ma porte. Il m'a assuré n'avoir pas bougé, et j'en suis persuadée maintenant. Il faut que l'endroit où il couche soit situé de façon à ce que, de ma chambre, je l'entende respirer et gémir par quelques fissures de la muraille, par la cachette où je mets mon argent et mon journal, peut-être. Qui sait si cette ouverture ne communique pas, par une coulée invisible, à celle où Gottlieb met aussi ses trésors, son livre et ses outils de cordonnier dans la cheminée de la cuisine. J'ai du moins en ceci un rapport bien particulier avec Gottlieb, puisque tous deux nous avons, comme les rats ou les chauves-souris, un méchant nid dans un trou de mur où toutes nos richesses sont enfouies à l'ombre. J'allais risquer quelques interrogations là-dessus lorsque j'ai vu sortir du logis des Schwartz et s'avancer sur l'esplanade un personnage que je n'avais pas encore vu ici et dont l'aspect m'a causé une terreur incroyable, bien que je ne fusse pas encore sûre de ne pas me tromper sur son compte. « Qu'est-ce que cet homme-là ? » ai-je demandé à Gottlieb à demi-voix. « Ce n'est rien de bon, » m'a-t-il répondu de même. « C'est le nouvel adjudant. Voyez comme Belzébuth fait le gros dos en se frottant contre ses jambes. Ils se connaissent bien, allez. » « Mais comment s'appelle-t-il ? » Gottlieb allait me répondre lorsque l'adjudant lui dit d'une voix douce et avec un sourire bienveillant en lui montrant la cuisine. « Jeune homme, on vous demande là-dedans. Votre père vous appelle. » Ce n'était qu'un prétexte pour être seul avec moi. Et Gottlieb s'étant éloigné, je me trouvais face à face. Devine avec qui, ami Beppo? Avec le gracieux et féroce recruteur que nous avons si mal à propos rencontré dans les sentiers du Böhmerwald, il y a 2 ans, avec Monsieur Meyer en personne. Je ne pouvais plus le méconnaître, sauf qu'il a pris encore plus d'embonpoint. C'est le même homme, avec son air avenant, sans façon, son regard faux, sa perfide bonhomie et son broum broum éternel, comme s'il faisait une étude de trompette avec sa bouche. De la musique militaire, il avait passé dans la fourniture de chair à canon. Et de là, pour récompense de ses loyaux et honorables services, le voilà officier de place, ou plutôt geôlier militaire. Ce qui, après tout, lui convient aussi bien que le métier de geôlier ambulant dont il s'acquittait avec tant de grâce. « Mademoiselle, m'a-t-il dit en français, je suis votre humble serviteur. Vous avez là pour vous promener une petite plateforme tout à fait gentille,
de l'air, de l'espace, une belle vue, je vous en fais mon compliment. Il me paraît que vous la passez douce en prison. Avec cela qu'il fait un temps magnifique et qu'il y a vraiment du plaisir à être à Spandau par un si beau soleil. Brum, brum. Ces insolentes railleries me causaient un tel dégoût que je ne lui répondais pas. Il n'en fut pas déconcerté, et reprenant la parole en italien. « Je vous demande pardon, je vous parlais une langue que vous n'entendez peut-être point. J'oubliais que vous êtes italienne, cantatrice italienne, n'est-ce pas ? Une voix superbe à ce qu'on dit. Telle que vous me voyez, je suis un mélomane renforcé. Aussi, je me sens disposée à rendre votre existence aussi agréable que me le permettra ma consigne. Ah ça, où diable ai-je eu le bonheur de vous voir ? Je connais votre figure. Mais parfaitement, d'honneur. C'est sans doute au théâtre de Berlin où j'ai chanté cet hiver. Non, j'étais en Silésie. J'étais sous adjudant à Glatz. Heureusement, ce démon de Trunk a fait son équipée pendant que j'étais en tournée. Je veux dire, en mission sur les frontières de la Saxe. Autrement, je n'aurais pas eu d'avancement et je ne serais pas ici, où je me trouve très bien à cause de la proximité de Berlin. Car c'est une bien triste vie, mademoiselle, que celle d'un officier de place. Vous ne pouvez pas vous figurer comme on s'ennuie quand on est loin d'une grande ville, dans un pays perdu. Pour moi qui aime la musique de passion. Mais où diantre ai-je donc eu le plaisir de vous rencontrer ? Je ne me rappelle pas, monsieur, avoir jamais eu cet honneur. Je vous aurais vu sur quelque théâtre, en Italie ou à Vienne. Vous avez beaucoup voyagé ? Combien avez-vous fait de théâtre ? Et comme je ne lui répondais pas, il reprit avec son insouciance effrontée. « N'importe, cela me reviendra. Que vous disais-je ? Ah, vous ennuyez-vous aussi, vous ? Non, monsieur. Mais est-ce que vous n'êtes pas au secret ? C'est bien vous qu'on appelle la Porporina. Oui, monsieur. C'est cela, la prisonnière numéro 3. Eh bien, vous ne désirez pas un peu de distraction de la société ? Nullement, monsieur, répondis-je avec empressement, pensant qu'il allait me proposer la sienne. Comme il vous plaira. C'est dommage, il y a ici une autre prisonnière fort bien élevée, une femme charmante, ma foi, qui, j'en suis sûre, eût été enchantée de faire connaissance avec vous. Puis-je vous demander son nom, monsieur ? Elle s'appelle Amélie. Amélie, qui ? Amélie, brum, brum, ma foi, je n'en sais rien. Vous êtes curieuse à ce que je vois ? C'est la maladie des prisons. J'en étais à me repentir d'avoir repoussé les avances de monsieur Meyer, car après avoir désespéré de connaître cette mystérieuse Amélie, et y avoir renoncé, je me sentais de nouveau entraînée vers elle par un sentiment de commisération et aussi par le désir d'éclaircir mes soupçons. Je tâchai donc d'être un peu plus aimable avec ce repoussant Meyer, et bientôt il me fit l'offre de me mettre en rapport avec la prisonnière numéro 2. C'est ainsi qu'il désigne cette Amélie. Si cette infraction à mon arrêt ne vous compromet pas, monsieur, répondis-je, et que je puisse être utile à cette dame qu'on dit malade de tristesse et d'ennui. Bon, bon, vous prenez donc les choses au pied de la lettre, vous. Vous êtes encore bon enfant. C'est ce vieux curistre de Schwartz qui vous aura fait peur de la consigne. La consigne, est-ce que ce n'est pas là une chimère ? C'est bon pour les portiers, pour les guichetiers, mais nous autres officiers. Et en disant ce mot, le meilleur se rengorgea comme un homme qui n'est pas encore habitué à porter un titre aussi honorable. « Nous fermons les yeux sur les infractions innocentes. Le roi lui-même les fermerait s'il était à notre place. Tenez, quand vous voudrez obtenir quelque chose, mademoiselle, ne vous adressez qu'à moi, et je vous promets que vous ne serez pas contrariée et opprimée inutilement. Je suis naturellement indulgent et humain, moi. Dieu m'a fait comme cela. Et puis, j'aime la musique. Si vous voulez me chanter quelque chose de temps en temps, le soir par exemple, je viendrai vous écouter d'ici, et avec cela vous ferez de moi tout ce que vous voudrez. J'abuserai le moins possible de votre obligeance, monsieur Meyer.
Meyer ?
s'écria l'adjudant en interrompant avec brusquerie le « broum broum » qui voltigeait encore sur ses lèvres noires et gercées.
« Pourquoi m'appelez-vous Meyer ? Je ne m'appelle pas Meyer. Où diable avez-vous pêché ce nom de Meyer ?»«
C'est une distraction, monsieur l'adjudant, » répondis-je. « Je vous en demande pardon. J'ai eu un maître de chant qui s'appelait ainsi, et j'ai pensé à lui toute la matinée. »
« Un maître de chant ? Ce n'est pas moi. Il y a beaucoup de Meyer en Allemagne. Mon nom est Nanteuil, je suis d'origine française. »
« Eh bien, monsieur l'officier, comment m'annoncerai-je à cette dame ? Elle ne me connaît pas et refusera peut-être ma visite, comme tout à l'heure j'ai failli refuser de la connaître. On devient si sauvage quand on vit seul. »
Oh, quelle qu'elle soit, cette belle dame sera charmée de trouver à qui parler, je vous en réponds. Voulez-vous lui écrire un mot ?
Mais je n'ai pas de quoi écrire.
C'est impossible, vous n'avez donc pas le sou ?
Quand j'aurai de l'argent, monsieur Schwartz est incorruptible, et d'ailleurs, je ne sais pas corrompre.
Eh bien, tenez, je vous conduirai ce soir au numéro 2 moi-même. Après, toutefois, que vous m'aurez chanté quelque chose. »
Je fus effrayée de l'idée que M. Meyer, ou M. Nanteuil, comme il lui plaît de s'appeler maintenant, voulait peut-être s'introduire dans ma chambre, et j'allais refuser lorsqu'il me fit mieux comprendre ses intentions. Soit qu'il n'eût pas songé à m'honorer de sa visite, soit qu'il lut mon épouvante et ma répugnance sur ma figure.
« Je vous écouterai de la plateforme qui domine la tourelle que vous habitez, » dit-il.
« La voix monte et j'entendrai fort bien.
Puis je vous ferai ouvrir les portes et conduire par une femme. Je ne vous verrai pas. Il ne serait pas convenable, au fait, que j'eusse l'air de vous pousser moi-même à la désobéissance. Quoique, après tout, en pareille occasion, il y ait un moyen bien simple de s'y tirer d'affaire. On fait sauter la tête de la prisonnière numéro 3 d'un coup de pistolet et on dit qu'on l'a surprise en flagrant délit de tentative d'évasion. L'idée est drôle, n'est-ce pas ? En prison, il faut toujours avoir des idées riantes. Votre serviteur très humble, mademoiselle Porporina, à ce soir. »
Je me perdais en commentaires sur l'obligeance prévenante de ce misérable. Et malgré moi, j'avais une peur affreuse de lui. Je ne pouvais croire qu'une âme si étroite et si basse aimât la musique au point de n'agir ainsi que pour le plaisir de m'entendre. Je supposais que la prisonnière en question n'était autre que la princesse de Prusse, et que, par l'ordre du roi, on me ménageait une entrevue avec elle, afin de nous épier et de surprendre les secrets d'État, dont on croit qu'elle m'a fait la confidence. Dans cette pensée, je redoutais l'entrevue autant que je la désirais, car j'ignore absolument ce qu'il peut y avoir de vrai dans cette prétendue conspiration dont on m'accuse d'être complice. Néanmoins, regardant comme de mon devoir de tout braver pour porter quelque secours moral à une compagne d'infortune, quelle qu'elle fût, je me mis à chanter à l'heure dite pour les oreilles de fer-blanc de monsieur l'adjudant. Je chantais bien pauvrement. L'auditoire ne m'inspirait guère. J'avais encore un peu de fièvre, et d'ailleurs, je sentais bien qu'il ne m'écoutait que pour la forme. Peut-être même ne m'écoutait-il pas du tout. Quand 11 heures sonnèrent, je fus prise d'une terreur assez puérile. Je m'imaginais que M. Meyer avait reçu l'ordre secret de se débarrasser de moi, et qu'il allait me tuer tout de bon, comme il me l'avait prédit sous forme d'agréable plaisanterie, aussitôt que je ferais un pas hors de ma cellule. Lorsque ma porte s'ouvrit, je tremblais de tous mes membres. Une vieille femme, fort malpropre et fort laide, beaucoup plus laide et plus malpropre encore que Madame Schwartz, me fit signe de la suivre et monta devant moi un escalier étroit et raide pratiqué dans l'intérieur du mur. Quand nous fûmes en haut, je me trouvai sur la plateforme de la tour, à 30 pieds environ au-dessus de l'esplanade où je me promène dans la journée, et à 80 ou 100 pieds au-dessus du fossé qui baigne toute cette portion des bâtiments sur une assez longue étendue. L'affreuse vieille qui me guidait me dit de l'attendre là un instant, et disparut je ne sais par où. Mes inquiétudes s'étaient dissipées, et j'éprouvais un tel bien-être à me trouver dans un air pur, par un clair de lune magnifique et à une élévation considérable qui me permettait de contempler enfin un vaste horizon, que je ne m'inquiétais pas de la solitude où on me laissait. Les grandes eaux mortes, où la citadelle enfonce ses ombres noires et immobiles, les arbres et les terres que je voyais vaguement au loin sur le rivage, l'immensité du ciel, et jusqu'au libre vol des chauves-souris errantes dans la nuit. Mon Dieu, que tout cela me semblait grand et majestueux, après 2 mois passés à contempler des pans de murs et à compter les rares étoiles qui passent dans l'étroite zone de firmament qu'on aperçoit de ma cellule. Mais je n'eus pas le loisir d'en jouir longtemps. Un bruit de pas m'obligea de me retourner, et toutes mes terreurs se réveillèrent lorsque je me vis face à face avec M. Meyer. « Signora, me dit-il, je suis désespéré d'avoir à vous apprendre que vous ne pouvez pas voir la prisonnière numéro 2, du moins quant à présent. C'est une personne fort capricieuse à ce qu'il me paraît. Hier, elle montrait le plus grand désir d'avoir de la société. Mais tout à l'heure, je viens de lui proposer la vôtre, et voici ce qu'elle m'a répondu. La prisonnière numéro 3, celle qui chante dans la tour et que j'entends tous les soirs. Oh, je connais bien sa voix, et vous n'avez pas besoin de me dire son nom. Je vous suis infiniment obligée de la compagne que vous voulez me donner. J'aimerais mieux ne revoir jamais âme vivante que de subir la vue de cette malheureuse créature. Elle est la cause de tous mes maux. Et fasse le ciel qu'elle les expie aussi durement que j'expie moi-même l'amitié imprudente que j'ai eue pour elle. Voilà, signora, l'opinion de la dite dame sur votre compte. Reste à savoir si elle est méritée ou non. Cela regarde, comme on dit, le tribunal de votre conscience. Quant à moi, je ne m'en mêle pas, et je suis prêt à vous reconduire chez vous quand bon vous semblera. Tout de suite, monsieur. Répondis-je, extrêmement mortifié d'avoir été accusé de trahison devant un misérable de l'espèce de celui-là, et ressentant au fond du cœur beaucoup d'amertume contre celle des deux Amélie qui me témoignent tant d'injustice ou d'ingratitude. « Je ne vous presse pas à ce point, » reprit le nouvel adjudant. « Vous me paraissez prendre plaisir à regarder la lune. » « Regardez-la donc tout à votre aise, cela ne coûte rien et ne fait de tort à personne. » J'eus l'imprudence de profiter encore un instant de la condescendance de ce drôle. Je ne pouvais pas me décider à m'arracher si vite au beau spectacle dont j'allais être privé peut-être pour toujours. Et malgré moi, le meilleur me faisait l'effet d'un méchant laquais trop honoré d'attendre mes ordres. Il profita de mon mépris pour s'enhardir à vouloir faire la conversation. « Savez-vous, signora, me dit-il, que vous chantez diablement bien. Je n'ai rien entendu de plus fort en Italie, où j'ai pourtant suivi les meilleurs théâtres et passé en revue les premiers artistes. Où avez-vous débuté? Depuis combien de temps courez-vous le pays? Vous avez gagné beaucoup d'argent ?» Et comme je feignais de ne pas entendre ces interrogations, il ajouta sans se décourager. Vous voyagez quelquefois à pied, habillé en homme? Cette demande me fit tressaillir, et je me hâtai de répondre négativement. Mais il ajouta. Allons, vous ne voulez pas en convenir. Mais moi je n'oublie rien, et j'ai bien retrouvé dans ma mémoire une plaisante aventure que vous ne pouvez pas avoir oubliée non plus. Je ne sais de quoi vous voulez parler, monsieur. Repris-je en quittant les créneaux de la tour pour reprendre le chemin de ma cellule. « un instant !» dit Meyer. « Votre clé est dans ma poche, et vous ne pouvez pas rentrer comme cela sans que je vous reconduise. Permettez-moi donc, ma belle enfant, de vous dire 2 mots. »« Pas un de plus, monsieur. Je désire rentrer chez moi, et je regrette d'en être sorti. » « Pardine, vous faites bien la mijaurée !» Comme si on ne savait pas un peu de vos aventures. Vous pensiez donc que j'étais assez simple pour ne pas vous reconnaître quand vous arpentiez le Bommerwald avec un petit brin pas trop mal tourné? À d'autres, j'enlevais bien le jouvenceau pour les armées du roi de Prusse. Mais la jouvencelle n'eût pas été pour son nez. Oui, da,
Quoi qu'on dise que vous avez été de son goût et que c'est pour avoir essayé de vous en vanter que vous êtes venu ici. Que voulez-vous? La fortune a des caprices contre lesquels il est fort inutile de regimber. Vous voilà tombé de bien haut. Mais je vous conseille de ne pas faire la fière et de vous contenter de ce qui se présente. Je ne suis qu'un petit officier de place, mais je suis plus puissant ici qu'un roi que personne ne connaît et que personne ne craint, parce qu'il y commande de trop haut et de trop loin pour y être obéi. Vous voyez bien que j'ai le pouvoir d'éluder la consigne et d'adoucir vos arrêts. Ne soyez pas ingrate, et vous verrez que la protection d'un adjudant vaut à Spando autant que celle d'un roi à Berlin. Vous m'entendez? Ne courez pas, ne criez pas, ne faites pas de folie. Ce serait du scandale en pure perte. Je dirai ce que je voudrais, et vous, on ne vous croira pas. Allons, je ne veux pas vous effrayer, je suis d'un naturel doux et compatissant. Seulement, faites vos réflexions, et quand je vous reverrai, rappelez-vous que je puis disposer de votre sort. Vous jeter dans un cachot, ou vous entourer de distractions et d'amusements. Vous faire mourir de faim, sans qu'on m'en demande compte, ou vous faire évader sans qu'on me soupçonne. Réfléchissez, vous dis-je, je vous en laisse le temps. Et comme je ne répondais pas, atterré que j'étais de ne pouvoir me soustraire à l'outrage de pareilles prétentions et à l'humiliation cruelle de les entendre exprimer, cet odieux homme ajouta, croyant sans doute que j'hésitais. « Et pourquoi ne vous prononceriez-vous pas tout de suite? Faut-il 24 heures pour reconnaître le seul parti raisonnable qu'il y ait à prendre et pour répondre à l'amour d'un galant homme, encore jeune et assez riche pour vous faire habiter en pays étranger une plus jolie résidence que ce vilain château fort ?» En parlant ainsi, l'ignoble recruteur se rapprochait de moi et faisait mine, avec son air à la fois gauche et impudent, de vouloir me barrer le passage et me prendre les mains. Je courus vers les créneaux de la tour, bien déterminé à me précipiter dans le fossé, plutôt que de me laisser souiller par la moins significative de ses caresses. Mais en ce moment, un spectacle bizarre frappa mes yeux, et je me hâtai d'attirer l'attention de l'adjudant sur cet objet, afin de la détourner de moi. Ce fut mon salut. Mais hélas, il a failli en coûter la vie à un être qui vaut peut-être mieux que moi.